Ô Esprit du Dieu vivant, viens toucher nos cœurs. Ô Esprit du Dieu vivant, viens toucher nos cœurs. Dans ton amour, ô Esprit du Dieu vivant, viens toucher nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à rentrer dans la plénitude de ta vérité. Question numéro 1. Vous avez dit, si je révèle mon péché, je révèle ce que je suis. Donc, c'est dans ce qui est moche en nous qu'on est vraiment soi. Donc, on ne peut vraiment se voir que par notre côté négatif. Est-ce que ce ne serait pas un peu masochiste? Et de toute façon, n'est-ce pas aussi, comme vous dites, n'est-ce pas aussi, est-ce que ça ne risquerait pas d'être de vous, enfin, je lis là exactement, n'est-ce pas aussi, comme vous dites, se gargariser à travers la plainte? Oui, c'est vrai, c'est important ça. Il y a quand même une très grande différence donc entre le fait de révéler son péché psychologiquement à un psychanalyste, par exemple, à un psychologue, à quelqu'un qu'on aime bien, à un ami, et révéler son péché et confesser ce qu'on est spirituellement. C'est une activité surnaturelle. Ici, nous rentrons dans le mystère de la confession. Il est évident que quand on s'adresse à, par exemple, à un psychologue, à un psychanalyste, parce qu'on est moche, on se sent mal dans sa peau, on a ce complexe de culpabilité, on a ce sentiment de culpabilité qui fait que c'est pas commode, etc. Alors on va voir le psychologue, on va voir le psychanalyste. Et effectivement, le psychanalyste, bon, bah, j'allais dire, on met sur la table ses affaires, ça dure longtemps d'ailleurs, il faut beaucoup de temps, il faut tout dire. Et le psychanalyste, lui, comme il reçoit les choses au niveau psychanalytique, il ne dira pas que c'est une confession. Il dira, vous vous dites ce que vous avez à dire. Et il reçoit tous ses aveux, si je puis dire, toutes ses confidences. Il le reçoit bon, dans un organe particulier, dans un corpus particulier. Au fond, c'est vrai, il a une méthode. Et il le reçoit dans un organisme. Et l'organisme explicatif, qui est un organisme de lumière, il va expliquer, parce que c'est ça le problème de celui qui est mal dans sa peau, c'est qu'il a le sentiment de culpabilité, est très très lourd, et produit l'angoisse, et la névrose, la psychose, etc., et toutes ces maladies psychologiques, parce que justement on ne comprend plus pourquoi on a cette angoisse. On n'arrive plus à déterminer la source de notre angoisse. Alors la lumière que donne le psychanalyste, c'est une lumière par rapport à tout un organisme de pulsions, un organisme de besoins qui sont liés à l'instinct. Et parce que pour Freud, c'est vrai, le point de vue donc de la culpabilité est lié très fort à l'instinct et à l'incapacité d'assouvir cet instinct, parce qu'on est un être humain. Alors du coup, ça fait monter cette insatisfaction produit, j'allais dire, un certain nombre de censures, d'autocensures, de censures de la communauté, et ces censures me mettent, j'allais dire, dans l'insatisfaction. Cette insatisfaction me met en séparation par rapport à la communauté, par rapport à moi-même, et ça me met dans l'angoisse. Mais c'est quand même un organisme explicatif à partir de l'instinct. La confession, on n'essaie pas de regarder notre angoisse et nos péchés et nos fautes et ce qu'on est à la lumière de l'instinct sexuel. Et du reste, est-ce que la psychanalyse me libère de l'angoisse. Si la psychanalyse me libère de l'angoisse, c'est à condition qu'à partir du moment où je suis guéri par la psychanalyse de mon angoisse, c'est qu'à partir de ce moment-là, je ne pourrai garder cette paix factice, d'une certaine manière, que si je continue à regarder ce que je suis à la lumière de l'instinct sexuel seul. Ce qui est un petit peu dramatique, entre nous soit dit. Nous voulons simplement montrer ce que nous sommes à la lumière de Dieu, à la lumière de l'amour, à la lumière de l'amour spirituel de Dieu. Vous voyez, si je révèle mon péché, oui, je révèle ce que je suis. Attention, je révèle mes actes, et je révèle parmi mes actes ceux de mes actes qui viennent vraiment de mes limites, qui viennent vraiment de moi. Quand je révèle, au fond, quand je confesse, quand je veux confesser que je ne suis pas Dieu, quand je veux confesser que Dieu, ce n'est pas moi, quand je veux confesser que l'amour substantiel, éternel, surabondant, ce n'est pas moi, eh bien, je révèle que je suis un être séparé, limité dans l'amour. Et c'est ça que je confesse. Et je ne peux que le confesser, au fond, qu'en le manifestant, qu'en montrant les actes que je fais. Les actes que je fais ne sont pas des actes d'amour éternel, ne sont pas des actes d'amour surabondant, parfait, brûlant. C'est vrai. Alors, ça, je le confesse, je le reconnais, et ça me fait mal. Parce que je sais que je suis fabriqué à partir de l'amour, et je sais que je suis fait pour l'amour. Et pour un amour absolu, un amour qui ne s'arrête jamais, un amour qui est toujours surabondant, un amour qui n'est plus à ma mesure. Et c'est ça que je révèle. Ah, ça, c'est spirituel, c'est pas l'instinct. Et ce n'est pas le sentiment de culpabilité. Il n'y a aucun sentiment de culpabilité dans la confession. S'il y a un sentiment de culpabilité dans la confession, c'est qu'on n'est pas rentré dans le mystère de la confession. Au contraire, on rentre dans la confession par la joie, par l'allégresse. On sait qu'on se rappelle qu'on est fabriqué avec de l'amour et fait pour un amour éternel, surabondant, on le sait. Et c'est notre joie. Et c'est pour ça qu'on rentre dans l'espérance, dans la joie, dans la liberté. Mais ce n'est pas ce qui est moche, c'est ce qui est beau. Je révèle ce que je suis en confessant parce que je sais, je prends conscience que je suis fabriqué avec de l'amour et que ce qui est en moi, c'est un germe d'amour infini. Je le sais. Et en confessant les limites, je reprends conscience que j'ai cette joie d'être fabriqué par de l'amour et pour un amour qui sera victorieux de tout définitivement. Et c'est pour ça que je sais à ce moment-là ce que je suis. Mais c'est effectivement en montrant les limites de mes actes. Et en pleine vérité à ce moment-là. Parce que je comprends que ce n'est pas tout n'est pas fait. Mais que c'est Dieu. Donc l'amour infini. Donc l'amour éternel, l'amour efficace et surabondant de Dieu qui doit faire le reste. Donc je relis. Donc c'est dans ce qui est moche en nous qu'on est vraiment soi. Non. Non. C'est la confession de nos limites qui nous révèle ce que nous sommes faits pour être. Nous sommes faits pour être tout amour. Donc on ne peut vraiment se voir que par notre côté négatif. Bah, on se voit par les côtés positifs et les côtés négatifs. Quand tu regardes la télé, si tu supprimes le noir, tu n'as plus aucune couleur. Si tu veux regarder une télé en noir et blanc, supprime le noir, tu n'as plus de film. Supprime le blanc, tu n'as plus de film. La vérité, c'est que tu prends tout. Et le péché fait partie de ta vérité. Mais ce péché va servir à faire que ton amour soit vivant. Si tu le donnes au blanc, c'est-à-dire si tu le donnes à la splendeur éternelle des processions de la très sainte Trinité, lumière née de la lumière, dans l'amour. À ce moment-là, ton péché deviendra vivant, mais ton péché sera mort si tu le plonges pas dans le mystère de la confession trinitaire. C'est ça qu'on a expliqué, je crois. Hein? Donc, alors du coup, c'est pas maso, parce que être maso, est-ce que ce serait pas un peu maso? Ben non, c'est pas maso. Le masochisme est une maladie psychologique. Une maladie. C'est une maladie qui vient de ce qu'on n'a pas encore résolu la seconde épreuve de la vie, l'épreuve de l'adolescence. Alors on devient maso, parce qu'on prend plaisir à ce qui est mortel. À ce qui est une odeur de mort et de souffrance et de Et en même temps, on a peur de ce qui n'est qu'amour. Ça, c'est du masochisme, ça. Et c'est un problème psychologique, c'est un problème d'adolescence, de quelqu'un qui a vis-à-vis de l'amour le même comportement que celui qu'il aurait vis-à-vis de la mort, et qui a vis-à-vis de la mort le même comportement que celui qu'il devrait avoir vis-à-vis de l'amour. Et ça, c'est un phénomène d'adolescence. L'instinct de vie apparaît, il s'aperçoit qu'il est source de vie, et il n'arrive pas à maîtriser son affaire, et il a peur de la mort. Alors, les deux se mélangent, la vie, la mort. Ça, c'est un typique de l'adolescence. Donc, je vous renvoie à la question de l'éthique sur la résolution de la deuxième épreuve de l'adolescence, lorsqu'on veut aimer jusqu'à l'infini. Question numéro 2. Vous avez lu un passage de l'Ancien Testament où Dieu dit « Je me repens d'avoir créé l'homme ». Eh oui, bien sûr. Je me repens. Il se repent. Quand Dieu parle dans la Bible, c'est le Messie, c'est le Verbe de Dieu qui parle. Le Verbe de Dieu prend le repentir. Le Verbe de Dieu prend la confession. Le Verbe de Dieu prend l'amour broyé par le péché, la contrition. Le Verbe de Dieu incarné prend tous ces aspects de la confession. Le Verbe incarné, bien sûr. Et le repentir, tout le repentir de ce que la création de l'homme est cassée, est complètement pris par le Verbe lorsqu'il parle aux hommes. Donc le Verbe incarné, le Messie. Je vais le supprimer, lui et les animaux. Eh bien oui, je vais supprimer l'homme séparé de Dieu pour faire qu'il n'y ait plus que l'homme uni à Dieu. L'homme de péché, pour qu'il n'y ait plus que l'homme glorifié. Bien sûr. Vous n'avez pas commenté ce passage. Ben voilà, c'est fait. Et pourtant, c'est Dieu qui se repent. Dieu regrette, oui, Dieu regrette les péchés. Et c'est parce que Jésus regrette concrètement dans un cœur humain, mais divinement à l'infini, il le regrette à l'infini, que du coup, nous pouvons recevoir ce regret. Parce que c'est une surabondance, c'est à cause de ça que le moindre petit enfant, le moindre petit homme sur la terre, après avoir fait le mal, s'il regrette finalement son péché, il ne le sait sans doute pas. Mais ça vient du fait que Jésus a regretté pour tous les hommes que ses péchés soient là. Vous ne le regrettez pas, vous ? Vous ne regrettez pas qu'il y ait du mal dans le monde ? Moi, je le regrette. Eh bien, ça nous vient de Jésus sur la croix, ça. S'il regrette ce qu'il ignorait, s'il regrette, c'est qu'il ignorait le dessein de l'homme. Pourtant, Dieu sait tout. Pourquoi se repent-il? Bon, je crois que, hein, on a répondu. Reprenez-moi si je n'ai pas répondu à la question, mais je pense que c'est ça. Hein. Il n'ignore pas le dessein de l'homme. C'est justement parce qu'il connaît le péché en pleine lumière qu'il le regrette et qu'il le confesse tel qu'il est. Nous ne pouvons pas confesser le péché tel qu'il est, parce que nous ne connaissons pas le péché tel qu'il est. Si on connaissait le péché tel qu'il est, on en mourrait dans l'instant. Si on connaissait la nature de notre péché personnel, on en mourrait dans l'instant. Vous connaissez l'histoire du curé d'Ars, qui a dit, lui qui confessait tellement de péchés, il dit, mais moi je ne fais pas autant d'atrocités que tous ces bougres. Et donc, supplie Seigneur de lui montrer en pleine lumière, ses péchés pour qu'il lui-même puisse confesser ce qu'il est dans le péché. Et bon Dieu lui a fait cette grâce. Partiellement. Sinon il serait mort, il aurait pu plus confesser. Il a mis un mois hein, à se relever, je vous l'ai dit ça. Un mois au lit. Clac. C'est le curé d'art ça. Alors nous, hein. Et donc Dieu le sait. Bien sûr qu'il le sait, et c'est pour ça qu'il est confession, regret, contrition, rédemption, conversion. C'est lui la conversion du monde. Troisième question. Vous avez dit, le péché, c'est la mort.
Eh bien, oui,
bien sûr. Le péché, c'est la mort. Parce que le péché enlève cette vie de l'homme, le coupe de sa source. La vie du corps, de l'homme, c'est l'âme. C'est l'âme qui donne la vie au corps. Et qu'est-ce qui donne vie à l'âme? C'est Dieu. Et qu'est-ce qui vivifie la relation entre la source de vie qui est Dieu et l'âme? C'est la grâce. C'est la grâce qui est la vie de l'âme, la vie surnaturelle, la vie divine. Et Dieu a créé l'homme et la femme dans la grâce originelle. Le péché l'a séparé de la grâce. Donc, la vie divine a disparu. C'est la mort, ça. Quand la vie disparaît. C'est pas la vie humaine qui disparaît, c'est la vie divine qui disparaît. Donc, c'est la mort divine dans le cœur humain de l'homme. Donc, l'amour humain de l'homme reste, puisque l'âme continue à vivifier son cœur et son... Ton âme spirituelle continue à vivifier son cœur, son corps et toute sa vie. Donc il continuera de pouvoir aimer humainement, naturellement, profondément, mais humainement. Mais d'aimer à l'infini, avec une fécondité infinie, savoir pouvoir brûler entièrement dans un amour vrai pour tout et pour Dieu, à la manière de Dieu, et avec une force d'intensité d'amour qui est divine, non, ça non. Il ne peut plus après le péché. Donc c'est cette vie d'amour-là qui est morte. Voyez. Donc vous avez dit, je vais lire la question toute entière, vous avez dit le péché c'est la mort. Quand on confesse son péché, au moment même, on est mort. Après la confession, c'est la vie. Eh bien oui, moi je pense que vous êtes d'accord maintenant. Vous êtes d'accord. Je vois que tout le monde est d'accord. Merveilleux ça. Ne serait-ce pas un processus psychologique? Non, j'avais expliqué que ce n'est pas un processus psychologique. Parce que la grâce ne pénètre pas au plan psychologique. La grâce ne sanctifie pas l'imaginaire. L'imaginaire n'est jamais pris par la grâce, sauf dans la vision béatifique. Oui, en plus, ce n'est plus la grâce, c'est la gloire. Après la confession, la personne ne ressent plus son acte comme un péché, puisqu'elle constate que Dieu pardonne, passe l'éponge sur son acte. Pas du tout. Après la confession, c'est ce que nous allons voir, la personne est encore plus consciente de son péché, et encore plus sensible au péché du monde. Et de plus en plus. C'est pour ça que le meilleur moyen d'être tranquille, la paix avec sa conscience, pour pouvoir aimer humainement, tranquillos, en s'en contentant, c'est de ne pas aller se confesser. Et pas vivre les sacrements. C'est d'ailleurs la preuve, on se le dit, regardez. Si dès le début la personne ne considérait pas son acte comme un péché, ça éviterait la culpabilité. Vous culpabilisez, l'Église, elle culpabilise. Avec la confession, il faut vous confesser. Culpabilise, allez, mets-toi à genoux. Instituer la confession, c'est instituer le péché. Donc c'est culpabiliser les personnes. Merci Seigneur. Il a institué la confession, donc il a institué le péché. Donc il a institué la mort. Ce n'est pas sympa, ça. Point d'interrogation. Non, c'est pas sympa. Ouais, pas sympa. Alors, donc vous voyez bien, est-ce que j'ai pas répondu à cette question, mais je crois que c'est quand même assez clair. À partir du moment où on a compris le principe c'est que ça n'est pas dans l'ordre psychologique que se situe la confession. On commence à rentrer dans le mystère de la confession lorsqu'on est déjà pardonné. Il ne faut jamais oublier ça. Et c'est ce qu'on va voir, justement. Et donc, quand on désire rentrer dans le pardon suprême, alors à ce moment-là, on a la vision de l'aigle sur le péché et on le voit en face, directement, et on voit tout. Et on s'élève, alors du coup, on voit non seulement le nôtre, mais tous les autres. Et on en voit la profondeur, la largeur, etc. Donc vous voyez, mais on ne le voit pas comme en étant coupable, enfin, au sens psychologique, vous voyez, comme étant angoissé. Et le sentiment de culpabilité, il vient du fait que, bah, vous comprenez, oui, on a fait des actes qui ne sont pas merveilleux, on n'a pas fait des choses qui sont belles. Alors du coup, on n'est pas valorisé à nos propres yeux. Alors du coup, comme on se sent dévalorisé, on a ce sentiment de culpabilité. À cause des actes qu'on a commis, on se sent dévalorisé. On est moche. Oh là là, qu'est-ce que je suis moche. À tout point de vue, je suis moche. J'entends des bourdonnements dans mes oreilles. Je louche. J'y comprends rien. Je n'ai pas la foi. Je résiste à toutes mes pompes. Jésus m'appelle. Je mets le frein à main, la marche arrière, tout. Et j'appuie sur le frein. Il y a beau y avoir un bulldozer qui passe par derrière pour avancer, ça fait rien, je me débrouille, je sors de la bagnole, Je suis moche. Alors, je suis moche, ouais, je suis moche. Alors, ouais, parce que vraiment, j'ai rien de bien, quoi. Bon, alors ça, c'est un aspect, vous comprenez. Mais ça, c'est un sentiment du moi. Qu'on se sente valorisé ou dévalorisé, c'est un sentiment du moi. C'est un des six sentiments du moi. Un des six sentiments de l'ego. Mais lorsqu'on se confesse, on est dans une relation d'amour, il n'y a plus d'ego, il n'y a plus que l'autre. Il ne peut plus y avoir de sentiment du moi. Le sentiment du moi, c'est quand même un petit peu plus que le point de vue psychologique. Un tout petit peu plus.
Sur le 50 que vous avez mis là au début, moi, il m'a toujours paru exprimer au contraire un fort sentiment de culpabilité, au sens où je comprends le mot.
Non, Dieu, c'est toi, mon Dieu.
David,
mon Dieu, mon Dieu.
Oui, je vois mon péché toujours devant moi.
Oui, je le vois de plus en plus. Plus. Oui, 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 mon cœur brisé, broyé, oui, c'est ce que... C'est une révélation de ce que Jésus dit sur la croix. Eh bien justement, David, c'est pas vrai, c'est l'Esprit Saint qui inspire David d'écrire ça. Attention, la parole de Dieu, c'est l'Esprit Saint, l'auteur principal. D'accord, historiquement, il a fait... On le ressent. Vous voyez, si vous dites on le ressent, c'est le sentiment. Vous ne pouvez pas recevoir ce texte en ressentant. Vous pouvez recevoir ce texte en le recevant de l'Esprit Saint qui passe à travers un pécheur. L'Esprit Saint...
Le pécheur se reconnaît pécheur.
Oui, mais attention, c'est l'Esprit Saint qui est l'auteur principal qui passe par un filtre qui est celui du péché du pécheur. Et donc, c'est une révélation de ce que Jésus exprime, lui qui s'est fait péché pour nous, puisque l'Esprit Saint passe à travers le cœur de Jésus qui est entièrement pris par le péché. Il s'est fait péché pour nous. Et donc ici, vous voyez, les autres psaumes de David, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Psaume 21, c'est pareil. Et c'est pour ça que Jésus dit, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce qu'il reprend le psaume de David pour exprimer que David a eu cette prière sous l'inspiration de l'Esprit-Saint pour exprimer prophétiquement ce que lui va vivre substantiellement dans la confession finale de la croix. Et c'est pareil pour le psaume 50. C'est « Mon Dieu, pitié pour moi dans ta bonté, dans ta miséricorde. Efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. » C'est la faute de tout Adam qui porte tous les hommes pécheurs. De tout le nouvel Adam qui porte tous les hommes pécheurs. Il ne reste plus que ce bitume à l'intérieur et à l'extérieur, le capard, n'est-ce pas, sur le Christ. Il n'y a plus que le péché. À l'intérieur et à l'extérieur de lui, il n'y a plus que le péché. Il ne voit plus que ça. Alors il dit, alors brûle tout ça, parce que mon cœur est contrit, broyé. Mais, vous voyez, sentiment de culpabilité, donc c'est un sentiment. Tandis que dans la confession, c'est autre chose. C'est par la foi et c'est par l'espérance que je rentre, la joie de l'adorateur, qui rentre par l'espérance dans le mystère d'une confession éternelle. Il rentre déjà dans la vie éternelle, qui est une confession. Je suis face au Père, en pleine bonté, en immense miséricorde. Non, on dit ce qu'on est, on dit ce qu'on a fait. Il faut le moins possible exprimer la chose comme si on était chez un psychanalyste en disant « je me sens coupable, j'ai fait ça ». Eh bien, l'Église te demande simplement de ne pas arriver avec ton sentiment de culpabilité. Elle te demande simplement d'arriver avec tes actes, avec ta moisson, joyeusement. Tu viens avec le Christ tel que tu es. Et tu dis simplement à Jésus, à l'Église et au Père ce que tu es, tes actes. Et ce que tes actes révèlent où tu en es. Tu es en route, tu es en pèlerinage, tu es de l'Égypte à la terre promise. Tu passes de l'Égypte à la terre promise et tu n'es pas encore dans la terre promise. Alors tu le dis, tu le montres par les actes. Et tu montres tel que tu es. Tu es heureux, c'est ça, parce que tu sais que de toute façon, ça se termine dans le paradis et dans un amour infini, victorieux de tout. Et c'est pour ça que tu viens joyeusement et tu dis, ben voilà, j'en suis là. Et c'est pour ça que tu es projeté, dans, tu es à nouveau propulsé encore plus loin, d'une manière plus rapide, vers ta finalité, vers ta gloire, vers la gloire éternelle du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Tu vois? Mais tu ne viens pas avec ton sentiment de culpabilité, parce que si tu viens avec ton sentiment de culpabilité, oh là là, je me sens vraiment, oh mon Dieu, ici et là, et à ce moment-là, je me justifie, je cherche, dès que je viens avec mon sentiment de culpabilité, je veux justement mettre la faute sur quelqu'un d'autre. C'est ça le sentiment de culpabilité. Quand je viens avec un sentiment de culpabilité, ce sentiment de culpabilité me gêne. Ben, c'est gênant, un sentiment de culpabilité. Oui, c'est quand même gênant. Mais si je... Oui, alors, je viens avec ma faute. Si je donne pas ma faute telle qu'elle est, alors à ce moment-là, je suis obligé de me rabattre sur le sentiment de culpabilité.
Je crois qu'il faut distinguer, et le malentendu est là-dedans, le mien aussi d'ailleurs, entre se reconnaître coupable et avoir un sentiment de culpabilité au sens psychanalytique.
Oui.
Donc, c'est ce malentendu que nous
avons... Oui, je reconnais que j'ai fait ça. Non seulement je reconnais, mais je dis que j'ai fait ça. Voilà ce que j'ai fait ça. Ça, je l'ai fait. Voilà. Oui, non, d'accord.
Je suis pas digne que tu rentres dans ma maison, mais c'est seulement une chambre.
Oui, absolument, tout à fait.
Ce qui est terrible, c'est qu'on sait qu'on va toujours recommencer.
On y vient. On y vient.
C'est ce qui est le plus
terrible. On va y revenir.
Il faut être factuel, comme lors d'un audit.
Il faut être factuel, c'est-à-dire faut dire les faits. Alors à ce moment-là, il y a l'objectivité de l'aveu. Et l'objectivité de l'aveu me fait sortir la subjectivité du sentiment psychologique de culpabilité. Et justement, le péché me plonge dans le point de vue psychologique. Le point de vue psychologique, c'est ce que nous avons en partage avec l'animal. Et Dieu veut quand même qu'on se relève et qu'on soit un homme, qu'on ne soit plus dans le sentiment de culpabilité. Et le point de vue simplement de la confession, ne serait-ce qu'au point de vue naturel, sans regarder le point de vue divin et surnaturel, et le point de vue mystique, et le point de vue sacramentel, ben rien que ça, ça me met debout. Je reconnais les faits. Je dis, je suis là. Je me reconnais face à moi-même. Donc c'est très sympa de sortir de l'animalité pour enfin voir ce qu'on est en pleine lumière. Ça, c'est vachement sympa. C'est très bien, justement. Oui.
Saint-Pierre, donc, il a mis totalement à côté de la plaque, il dit, éloigne-toi, Seigneur, car je suis pécheur.
Oui. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai. Il a quand même, il a quand même confessé justement en disant ça. Je suis pécheur.
Éloigne-toi, Seigneur.
Oui, je comprends parce qu'il n'avait pas encore rencontré le Messie. Et donc quand le Messie lui fait la pêche miraculeuse, il comprend que c'est le Messie. Alors là, il lui dit bon, il lui dit plus éloigne-toi. Mais tout de même, éloigne-toi, ça veut dire beaucoup de choses. C'est un peu comme Jésus avec Marie à Cana. Hein? C'est un éloigne-toi, vous savez, très... Éloigne-toi pour que je puisse être tout à fait uni à toi. Enfin, c'est le recul pour mieux sauter, si vous voulez. C'est une expression hébraïque qui est très belle. Vous voyez, quand, entre Marie et Jésus à Onos de Cana. Oui, oui. Vous voyez, c'est une expression du même style. C'est éloigne-toi de moi. C'est ce que je vous avais expliqué hier. C'est qu'il faut, pour que je puisse m'éloigner du péché que j'ai commis, mon péché, il est là. Et je me cache, Adam se cache derrière les arbres du jardin pour surtout ne pas voir l'arbre qu'il a consommé, n'est-ce pas ? Le seul arbre qu'il ne fallait pas consommer. Et il se cache derrière les autres arbres, donc c'est les côtés bons qui sont en lui, les beaux autres actes qui ne sont pas pécabineux, il se cache derrière, il se justifie. Mais du coup, il ne se peut pas se séparer de son péché. Vous voyez, c'est beau ça, c'est vrai, cette image est magnifique. Et donc la confession, l'exigence que Dieu donne à Adam, à Caïn, à Noé, à Abraham, à Moïse, et puisque Jésus propose à ceux qui croient dans l'Église, bon, eh bien, c'est précisément que le pécheur se reprenne à nouveau contact avec son péché, parce que c'est le seul moyen pour lui de s'en séparer. Il faut qu'il refasse l'unité avec son péché, justement en le confessant, en rejoignant le fait, sinon il ne peut pas s'en séparer. Et c'est justement la différence avec Jésus qui, lui, n'a pas péché. Et donc, si lui, il fait l'unité avec le péché, justement parce que il ne l'a pas fait, c'est ce qu'il fait par l'incarnation. Il fait l'unité avec toutes les limites et les séparations de l'homme de Dieu à cause de leur péché. Et comme il ne l'a pas fait, et s'il en fait l'unité, il ne peut pas s'en séparer. Il est entièrement assimilé au péché. Et donc ça se passe au centre du péché, il est enfermé dedans, il n'y a plus que le péché pour lui. Il n'est que péché. C'est évidemment là quelque chose de terrible pour le cœur humain de Christ, pour l'âme de Christ. Heureusement qu'il y a le Verbe de Dieu qui le maintient en vie. Sinon, quand il a 1 an, quand il a 5 ans, quand il a 10 ans, à chaque instant, normalement, il devrait mourir immédiatement. Vous avez dit, la confession, c'est la transformation du péché. Ça, c'est très beau d'avoir retenu ça. C'est vrai, c'est la transformation du péché. Quand Jésus s'est fait péché pour nous, le Père, après le samedi saint, prend ça et le transforme en gloire. Le corps de Jésus devient un corps de gloire. Et donc un corps où c'est il n'est plus péché, il est Esprit Saint dans son corps. Il est gloire de l'Esprit Saint, il est inspiration d'amour éternel. Dans son corps brûle. Et c'est cette transformation qui s'est opérée par la confession de Jésus sur la croix. Jésus, en confessant les péchés, a réalisé le passage de la confession à l'absolution, permet précisément cette transformation. C'est la transsubstantiation du sacrement de confession qui est là. C'est mon péché est transformé en gloire. Vous avez dit, la confession, c'est la transformation du péché. N'est-ce pas plutôt un transfert ? On se débarrasse de notre acte, on l'envoie à Dieu, au prêtre. On fait comme le tachemir, tu sais, comme le petit truc, comme dans le Nouvel Âge, vous voyez, on rentre, allez, on fait sortir les énergies, bon, je ne sais pas comment, je vous avais déjà expliqué à certains d'entre vous, puis après on fait sortir les parasites, on jette dans l'eau, on jette dans la lumière cosmique, surtout si on est ensemble, dans le feu, enfin, il y a différentes formules de pratique, et comme ça on est tranquille, merveilleux, pas besoin de faire psychanalyse à ce moment-là, c'est pas... C'est vrai. Et la réminiscence, c'est ça, les expériences de régression chez les médecins, les nouveaux médecins, n'est-ce pas? C'est ça, on fait comme ça. On rentre dans cette espèce de lumière, on voit le problème, on laisse ça dans la lumière dans laquelle on a découvert ça, et on revient dans son corps. C'est quoi cette lumière? En fond, on a remis ça, l'eau, le feu, etc., dans lequel on met ça, cette lumière cosmique, c'est, mais c'est Satan. Alors on a confessé ça qui, on a laissé ses limites à qui? À Satan. Mais ces limites vous appartiennent, et vous êtes liés à Satan en faisant ça. Maintenant, nous, on remet nos limites à Dieu pour qu'elles soient transformées en gloire. Parce que Satan ne transforme pas nos limites en gloire. Évidemment, c'est terrible. N'est-ce pas plutôt un transfert? Mais non, ce n'est pas un transfert. Un transfert, c'est... Alors, attention. Je vois que c'est toujours le même type de question. Donc, c'est toujours la même question. En fait, un transfert, c'est un terme psychologique. Lorsque tu te sens coupable, parce que tout le monde t'accuse, parce que c'est mal ce que tu as fait, mais c'est honteux ce que tu as fait, etc. T'as pas le droit de faire ça. Alors finalement, au bout d'un certain temps, je découvre, grâce au psychanalyste, que c'est à cause de ma mère. Alors je transfère la faute sur ma mère. Si je suis homosexuel, ben c'est à cause de ma mère. Voilà, je suis homosexuel à cause de ça. Ça y est, maintenant j'ai compris. Alors, la faute est transférée sur ma mère. C'est un psychanalyste. C'est un phénomène de transfert. Si j'ai une faute, hop, quand je regarde quelqu'un, je fais un transfert sur elle. Puis donc, lui, c'est une obsédé sexuelle, celui-là. Tout est pur pour celui qui est pur, tout est impur pour celui qui est impur. C'est un transfert. C'est un axiome très important, c'est un phénomène psychologique très important. Je ne vois pas le Christ dans le sacrement, c'est parce que le Christ n'est pas en toi. Je vois le Christ dans le sacrement, c'est parce que le Christ est en toi. C'est un phénomène. Alors voyez, le transfert, c'est une projection qu'on fait. C'est l'intelligence liée à l'imaginaire. qui fait le transfert. Tandis que dans la confession, ça n'est pas l'intelligence qui fait le transfert. Le transfert est fait par le Père. La première personne, la très sainte Trinité, c'est pas toi qui fais le transfert. C'est Dieu le Père qui prend ton péché et le transforme en gloire. Donc c'est pas ton intelligence liée à ton imaginaire. C'est Dieu qui agit dans le sacrement. C'est Dieu qui agit surnaturellement. Donc c'est pas un transfert. Mais en même temps, tu peux avoir le même soulagement, ou un soulagement aussi grand, ou plus grand même, que celui que tu aurais en faisant le transfert. En disant, mais c'est pas ma faute, c'est de la sienne, puis c'est tout. Mais ce ne serait pas la vérité. Ça te soulage, mais un peu dans le mensonge. Tu n'es pas en pleine lumière. C'est le sacrement de la lumière. Ben, bien sûr, il suffit simplement que tu fasses un papier, que tu écrives.
Non, non, mais c'est bon, ça me gêne.
Ah, je comprends, oui.
T'as parlé, il y avait des questions de personnes comme ça. Si vous pourriez repréciser le point que vous dites, Jésus confesse ce qu'il est devant le Père pour la croix. Parce qu'il confesse, il est identifié au péché, mais il n'est pas identifié de par sa propre dimension à lui, même au niveau humain, puisqu'il n'a pas péché du tout. Mais est-ce que ça ne traduit pas ce qu'on dit notamment quand on dit qu'il est plus nous-mêmes, plus nous-mêmes que nous-mêmes, en fait, d'une certaine manière, et que dans sa dimension humaine...
Écoute, tu es un petit gosse. Tu as été élevé chez vraiment la Sainte Vierge. Tu vois ? On ne t'a parlé que du bien. Tu n'as vu que de l'immaculation partout. Tout le temps. Puis d'un seul coup, à l'âge de 8 ans, on te montre un film porno. T'en compte ?
Non.
Donc, d'un seul coup, est-ce que tu vois encore l'immaculation, la grâce, la gloire de Dieu, la présence ? Tu ne vois plus que ça ! Tu es littéralement... Parce que... Tu n'es pas un hippopotame, hein, quand tu es dans comment dire, tu n'es pas la cuirasse, en disant, non, bon, ça fait rien du tout. Mais quand Dieu, il s'est fait homme, vous comprenez bien, quand Dieu s'est fait homme, quand Jésus est là, l'expérience du péché qui est dans le monde le pénètre, mais complètement. Et tous les péchés, peut-être complètement, c'est un peu... Pour nous, non, on est habitués de tous les côtés. Tu comprends ? Alors, c'est pour ça que le péché est vraiment en lui, et tous les péchés sont vraiment en lui, tels qu'ils sont.
Substantiellement.
Non.
Intentionnellement.
Non! Ils y sont. Vitalement. Ils vivent en lui. Et donc il a tous les sentiments des pécheurs, tous les sentiments de David, tous les sentiments, etc. Tous. Et c'est là. Il a le sentiment de l'athée, du mécréant, de celui qui se révolte, de celui qui ne veut pas rentrer, de celui qui veut sortir, de celui qui... Alors du coup, il confesse ce qu'il a. Il confesse ce qu'il vit. Et donc ce que vivent tous les hommes dans le péché. C'est sûr. Mais en même temps, il est dans la vision béatifique et il confesse qu'il est le Verbe en face du Père. Lumière née de la lumière. Il confesse les deux. C'est pour ça que son péché était confessé dans la lumière substantielle. C'est pour ça que c'est une confession. C'est la seule confession, d'ailleurs. Oui.
Est-ce que, quelque part, quand il confesse le péché d'humanité,
oui.
Il n'enduit pas ce péché de l'onction de sa justice ?
Oui, oui, bien sûr. Précisément. Précisément. D'abord, c'est le bitume, et ensuite, c'est le feu. Et pas que c'est le feu. Mais d'abord, il bitume. À partir du moment où il s'est incarné, c'est le bitume. Regarde, le mouvement. Premièrement, il s'incarne, ça y est, il est au centre. Puis il vit l'enfance, la vie apostolique, c'est le bitume par l'extérieur. Il est bitumé par l'extérieur et de l'intérieur. Et puis ensuite la mort, alors là, c'est complètement. Et enfin, la résurrection, on met le feu. Mais le bitume, il est déjà... Tu bitumes l'intérieur à l'incarnation, tu bitumes l'extérieur par la vie, et tu mets le feu, l'Esprit Saint, et il ne reste plus que la gloire à la résurrection et à la Pâque, c'est-à-dire ce qui correspond à l'absolution. Autre question. Qu'est-ce qui fait que l'on oublie nos péchés, que sur le point de nous confesser, c'est la panne sèche? On se sent en état de péché, mais incapable de repenser nettement à nos péchés. Mais oui, attention, là, c'est une autre question. C'est quand on vit du sacrement, c'est-à-dire, donc, ça, c'est la pratique du sacrement, eh bien, il est évident que si on oublie nos péchés, c'est pas à tous les coups, hein, qu'on oublie, c'est pas à tous les coups qu'on oublie les péchés. Ça arrive quelquefois qu'on en oublie quelques-uns. Vous voyez, une fois qu'on se trouve dans le prêtre, oh, c'est pas qu'on n'ose pas les dire, c'est que ça nous est sorti. Il y a une obscurité, si vous voulez. On reconnaît qu'on est pécheur. C'est parce qu'on n'a pas fait l'examen de conscience. Premièrement. Alors l'examen de conscience fait partie intégrante de la confession. Il faut être en pleine lumière. Et c'est au moment de l'aveu, vous voyez, c'est au moment de l'aveu, et au moment où on doit présenter les faits tels qu'ils sont, nous tels que nous sommes, si on n'arrive pas à s'en rappeler, c'est tout simplement parce que il est peut-être, en général, un des signes qu'il n'y a pas la contrition. C'est ce qu'on va voir, ça. Il n'y a pas la contrition par rapport au péché qu'on a oublié. Parce qu'il y a quand même une grâce qui est donnée par Jésus. Que pour les péchés pour lesquels on n'a pas vraiment la contrition, eh bien, au moment de la confession, il lui supplie. C'est peut-être aussi ça, quelquefois. Parce qu'il veut quand même que son sacrement soit efficace, mais si vous n'aviez pas la contrition sur ce péché-là, et que vous vous en rappeliez, et du coup vous ne le disiez pas, ou je ne sais pas quoi, ou, eh bien, j'allais dire, le sacrement ne serait pas efficace, si je puis dire. Mais il y a aussi un deuxième fait, c'est que qu'est-ce qui fait que l'on oublie nos péchés? C'est que le péché, il est subjectif. Vous voyez, il y a quelque chose dans la confession de Jésus sur la croix qui pourrait expliquer ça. Jésus, de l'incarnation jusqu'à l'instant de la croix, il est en présence objective, en présence subjective, il subit tous ses péchés, donc il les voit, il s'en rappelle, il les porte tous. Mais sur la croix, et plus exactement après la mort, et entre l'instant de la mort et l'instant où son cœur est ouvert, c'est quelques instants où il est déjà mort, où il descend aux enfers. Le péché a perdu toute sa lumière, toute son objectivité. Vous voyez, toute sa subjectivité, plus exactement. Il ne reste plus que le péché dans son aspect le plus ténébreux, le moins lumineux qui soit. Alors, on est désemparé à ce moment-là. Jésus est désemparé. Il y a quelque chose qui est... Il y a une détresse de Jésus. C'est vrai. Il ne reste plus que le péché. Il ne sait même plus lequel. Il est le péché, par excellence. Et ça, c'est l'instant de la croix. C'est l'instant de la confession. C'est l'instant de la confession du Christ, la confession finale. C'est parce qu'il n'y a plus que le péché. Alors, peut-être que c'est ça aussi quelquefois, n'est-ce pas? Cette espèce de grâce de Jésus qui vient faire qu'il y a le péché, et puis c'est tout. On ne demande qu'une seule chose, on ne fait pas exprès, si vous voulez. Mais c'est très délicat, ça. Mais il faudrait regarder les différentes manières de se confesser pour répondre à cette question, ce qu'on verra peut-être demain. Est-ce que vous pourriez creuser la responsabilité du chrétien vivant des sacrements en regard de l'humanité? En quoi, lorsqu'il se confesse, c'est aussi avec le sien le péché de l'humanité qui est trempé dans le sang du Christ? Autrement dit, veuillez expliquer encore en quoi la miséricorde de Dieu s'adresse à tous les hommes à chaque fois que je me confesse. Eh oui, c'est parce qu'il y a quand même une transformation, comme nous le disions tout à l'heure, Il y a une transsubstantiation et une transactuation. Ça dépend quel sacrement. Mais à chaque fois, il y a quelque chose qui est substantiellement, radicalement, fondamentalement, actuellement changé. Dans l'Eucharistie, nous le savons, on passe du corps, du pain et du vin au corps ressuscité du Christ et au sang du Christ. Là. Bon. Pour ce qui est de la confession, notre confession, nous allons, nous nous présentons, et puis nos péchés sont pris par le Christ, prêtre. Quand il nous donne l'absolution, l'absolution vient prendre cette matière, le pain et le vin. Le pain et le vin du sacrement de pénitence, c'est quoi? C'est les actes qu'on a faits et qu'on apporte, c'est la matière, c'est le pain. Et la contrition, c'est le vin, si on veut. N'est-ce pas? Et pour montrer que le pain et le vin sont vraiment apporté dans la même patène, par la même personne, il y a la résolution. On s'identifie et en même temps on s'en détache. C'est la résolution de s'en détacher. C'est les trois conditions qui font la matière du sacrement. C'est ce que l'Église dit, vous voyez, la matière du sacrement de pénitence, de réconciliation, du pardon, c'est un, la contrition, deux, la résolution de se détacher du péché, trois, eh ben, l'aveu, c'est-à-dire on apporte le péché en question et on le dit tel qu'il est. Voilà la matière. Si j'apporte pas ça, il n'y a pas de sacrement. Exactement pour comme la messe, il n'y a pas de pain, pas d'Eucharistie. Si j'apporte autre chose, si j'apporte du riz, c'est-à-dire si j'apporte des péchés que j'ai jamais faits, et pas ceux que j'ai faits, là. Vous voyez, la forme, c'est l'absolution. Ego te absolvo ab omnis peccatis tuis. Je te pardonne tous tes péchés. C'est la formule minimum. Mais normalement, le prêtre doit dire quand même la formule complète. Moi, je te pardonne tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et en même temps, il doit dire même plus que ça, exactement comme quand il dit la messe, il dit pas seulement la consécration, mais il dit aussi le canon de la messe. Alors, la forme enveloppante du sacrement, c'est l'ensemble de l'absolution. Que Dieu, notre Père, te montre sa miséricorde. Par la passion de son Fils, il a réconcilié le monde entier par la passion de son Fils. Il a réconcilié le monde entier avec lui. Et il a donné l'Esprit Saint pour la rémission des péchés, par le ministère de l'Église qui te donne le pardon et la paix. Et moi, je te pardonne tous tes péchés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la passion de Jésus-Christ notre Seigneur, la prière et les mérites de la bienheureuse Vierge Marie, tout ce que tu feras de bien, supporteras patiemment de pénible, contribue au pardon de tes péchés, augmente en toi la grâce et te fasse parvenir à la gloire éternelle du ciel, la résurrection. Voilà la formule complète qui me fait passer de la mort au samedi saint et à la gloire de la résurrection. Et le péché, effectivement, a subi cette transformation, cette mutation. Et du coup, une fois qu'il y a là, je vais vivre ce qui correspond à la reste du sacrement, ce qu'on va essayer de voir. Il faudrait quand même le fruit du sacrement, c'est ce qui résulte, c'est ce qui déborde de ce péché, qui est source de gloire. Et du coup, je le porte en moi. Le péché, ce n'est pas séparé de moi, mon péché. Mais il est transformé en gloire, et donc je deviens source d'amour pour tout ce qui est péché dans le monde. Je deviens source de miséricorde pour tout, et je porte le péché du monde un petit peu plus. C'est ça le fruit du sacrement, c'est le mystère de la confession. Je rentre dans le mystère de la confession dans lequel que Jésus a vécu depuis le début. Et que Jésus vivait avant même la création du monde, puisqu'il confessait qu'il était le Père, qu'il était le Fils face au Père, pour spirer l'Esprit Saint. Donc en même temps, le fruit de la confession, c'est que je suis rentré grâce à mon péché, et par le véhicule de ce péché-là, pris par Jésus crucifié et ressuscité, je suis rentré dans la très sainte Trinité. Donc je vis du ciel. C'est pour ça qu'il faut une action de grâce après la confession, c'est normal. Et en même temps, je suis beaucoup plus proche du péché du monde. Et ça, c'est les cinq aspects donc du sacrement. Et d'ailleurs, on va faire un petit tableau, comme d'habitude. Hein, pour, vous voulez que je fasse le petit tableau? Il y a 10 minutes. Vous comprenez donc que mon péché, moi je demande pardon autant que je peux, avec la grâce que le bon Dieu m'a donnée jusqu'à maintenant, avec la sainteté que j'ai, donc avec l'amour surnaturel, la charité, l'espérance que j'ai, qui n'est pas encore la même charité que l'Immaculée au moment de l'adormition. Pas encore. Donc il faut encore que je rentre dans le mystère de la confession, encore plus, de plus en plus, parce que l'amour existe toujours, cette croissance, cette intensification continuelle, on ne s'arrête jamais dans l'amour. Alors, j'arrive, je demande pardon, je suis désolé, j'ai une contrition, je demande pardon, et le prêtre prend ma demande de pardon, et elle est transformée dans la demande de pardon que Jésus fait sur la croix, face au Père, à ma place, en prenant sur lui tous les châtiments. C'est une transformation incroyable, ça. De sorte que l'amour que j'avais dans ma demande de pardon à moi, qui même si est très, 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 très grande, parce que je suis un très grand saint. Donc si vous êtes un saint, vous ne confessez plus. Tu vois? Mais si vous êtes un très grand saint, vous ne confessez plus. C'est plus la peine, puisque vous êtes un très grand saint. Tu vois? Ben même si c'est très 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 grand, c'est ridicule à côté de l'amour que Jésus met sur la croix lorsqu'il demande pardon au Père. Si ton cœur est broyé parce que vraiment tu aimes Dieu et tu es broyé à cause de ce que tu... parce que tu n'es pas encore pleinement dans l'amour infini de Dieu, que l'amour n'a pas pris entièrement toute ta vie, tout ton cœur, tous tes actes, ben oui, mais... Que Jésus soit broyé. Jésus est infiniment plus broyé. Il est tellement broyé que c'est l'Esprit Saint, la personne même de l'amour substantiel de Dieu qui jaillit à partir de là. Mais dis donc, ça fait quand même une sacrée transformation. Donc quand tu demandes pardon de tes péchés, c'est bien, tout seul. Là, avec Dieu, avec Jésus, là, tu demandes pardon à Jésus. Mais Jésus te pardonne, pas de problème. Enfin, dans la mesure de ta foi, de ton espérance et de ta charité, dans la mesure. Donc, c'est très limité. Mais dans la confession, ta mesure est transformée dans la mesure du Christ, mort et ressuscité. C'est une autre mesure. À ce moment-là, ta demande de pardon, elle a une efficacité infinie. Et du coup, mais Jésus, quand il demande pardon pour tes péchés, il demande en même temps pardon pour tous les péchés de tous les autres. Et donc, quand tu vas au sacrement de la confession, c'est cet instant de la demande de pardon de Jésus au moment de sa confession finale qui prend tous les péchés des hommes pour les réintroduire dans la pensée, dans la sagesse, dans la miséricorde de Dieu, dans le sein du Père. Alors, ils sont déposés en attente, dans l'attente de leur conversion. Ils sont déjà pardonnés grâce à toi. Mais ils ne sont pas encore confessés. Parce que ça dépend d'eux. Alors, veuillez expliquer un peu plus en quoi consiste la ferme résolution, le ferme propos, l'obéissance au confesseur. Valide le sacrement de pénitence. Confère Abraham, marche devant ma face et sois irréprochable. Que se passe-t-il lorsqu'il n'est pas tenu les décisions, lorsqu'il est désobéi au confesseur, quand chute et quand chute encore? C'est pas un problème, ça. Si on chute encore, eh bien, on peut glorifier Dieu encore plus grâce au mystère de la confession. Ça ne veut pas dire qu'il faut pécher au maximum. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, il y aura toujours, on sera toujours limité dans l'ordre de l'amour et nos actes sont toujours un petit peu empreints d'orgueil, de vanité, de jugement. Toujours. On mettra toujours le frein à main par rapport à Jésus, par rapport à l'Église. Toujours. Alors, évidemment, il faut être décidé à ne pas... La ferme résolution, c'est qu'on est décidé à ne pas recommencer. On ne veut pas de cette limite-là. On ne veut pas dire non au commandement de Dieu, au commandement de Jésus, aux exigences de l'Esprit-Saint, dans le corps mystique de Jésus, dans le cœur mystique de Jésus. Non, on ne va pas. Et on est vraiment décidé à tout faire pour s'en séparer. Mais si on vivait de la reste du sacrement, le cinquième aspect du sacrement, si on vivait de la reste du sacrement, je vous affirme qu'on ne retomberait pas dans cette faute. C'est peut-être aussi parce qu'on aurait d'autres fautes. Ça oui. On aurait d'autres fautes. On reconfesse la même faute. Et puis, une fois que, grâce au sacrement de la confession et l'Eucharistie, et avec beaucoup de charité, d'amour, etc., bon, cette faute a disparu, grâce aux résolutions, grâce à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne supprime pas mon habitude. La grâce de la confession ne supprime pas mon habitude. Elle prend mon péché, elle le transforme en miséricorde et en gloire et en source de vie pour les autres, pour le monde. Mais elle ne supprime pas mon habitude. C'est pour ça qu'il faut la ferme résolution. En se confessant régulièrement et le plus souvent possible, on se sent toujours pécheur. Il nous arrive même de penser qu'on n'arrive pas à se débarrasser de certains péchés. Pourquoi ? Ben quoi, je viens d'essayer de répondre à cette question. Encore, vous voyez, c'est très... Oui, on n'arrive pas à se débarrasser. Si, on arrive à se débarrasser. On arrive à se débarrasser de ce péché-là. On arrive à se débarrasser de ce fait qu'on a fait cela. Enfin, de se débarrasser. On ne s'en débarrasse pas. Mais on vit autrement de ce péché. On a invité l'Église, donc le corps mystique de Jésus tout entier. On a invité l'Immaculée. On a invité Jésus. On a invité la très sainte Trinité pour habiter dans mon péché. Et donc le péché est devenu un nid de gloire. Et donc il n'y a plus de péché. Parce que dès que vous mettez la lumière dans la nuit, il n'y a plus de nuit. Mais s'il n'y avait pas eu la nuit, vous n'auriez pas eu cet appel de mettre la lumière dans la nuit. Donc vous êtes effectivement, cette faute n'existe plus. Mais ce qui existe encore, c'est l'habitude. On a l'habitude, on a pris l'habitude. Mais dans un premier temps, c'est le cœur qui se détache de l'habitude. Mais l'habitude ne disparaît pas. Et si le cœur se détache de l'habitude, n'est-ce pas ? Et qui, alors à ce moment-là, petit à petit, le corps se détachera de l'habitude. Mais c'est à force de poser des actes intérieurs du cœur pour se détacher des habitudes, ça va faire une révolution, que le corps perdra son habitude. Parce qu'il faudra... Et ça, justement, c'est ce qu'on appelle la pénitence. C'est ce qu'on appelle la pénitence. La pénitence, la cèse qu'on fait après. On demande au confesseur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je suis bien d'accord pour ne pas recommencer, mais quels sont les actes contraires qu'il faut que je pose pour être débarrassé de cette habitude ? Et j'obéis au confesseur, effectivement. J'essaye d'obéir au confesseur parce que je comprends qu'à travers l'exhortation du confesseur, il y a une parole de Dieu. Non, c'est l'obéissance. Oui, mais c'est l'obéissance au confesseur. Et puis, tu peux rajouter des actes de pénitence. Le confesseur, tu te donnes la pénitence que tu dois faire sacramentellement. Donc, quand tu fais la pénitence du confesseur, il y a encore la présence réelle du sacrement de pénitence. Jésus crucifié, passant du samedi saint à la résurrection, ce passage est présent réellement quand tu fais la pénitence du confesseur. Il y a présence réelle pendant la pénitence. Parce que la pénitence fait partie substantielle du sacrement. Mais la pénitence après que tu fais toi-même, tu vois, pour faire des actes contraires parce que c'est un conseil que t'a donné le confesseur, alors tu écoutes ce conseil, alors ça c'est autre chose. C'est ce qu'on... Non, là il n'y a plus de présence réelle, c'est... il te donne un conseil, c'est de la direction spirituelle, c'est plus la confession.
Oui. Pourquoi est-ce qu'on appelle pour pénitence, on vous dit une prière qui ne devrait pas être une pénitence, parce qu'on a toujours surpris un petit peu. Pourquoi pénitence, on citerait une dizaine de chapelets ou un autre père,
ben, c'est pour vivre du fait que votre péché, c'est pour vivre de la présence réelle du sacrement, La prière est ce qui vous permet de vivre de la présence réelle du sacrement et de l'état final dans lequel est votre péché. Si. Oui, si. Ça vous fait sortir de vous-même, ça vous met dans la gloire de Dieu, et ça, c'est la pénitence, parce que la pénitence, c'est un acte de mort à soi-même pour que Dieu vive. Oui, mais si c'est fait dans un esprit de pénitence, vous le faites, et puis c'est tout. Et vous avez la présence réelle du sacrement qui est là. Et donc, à travers cette pénitence, vous portez, c'est ce qu'on va voir justement, le péché du monde entier. Non, mais vous inquiétez pas, vous pouvez demander au confesseur des pénitences un peu plus saignantes.
Finalement, on se réjouit de confesser chaque fois davantage du péché, puisque ça vient de la gloire.
Je crois que vous avez parfaitement compris. Il faut se réjouir de confesser le plus souvent possible ses fautes. Et les fautes par la même occasion du monde entier. On n'a pas le droit d'être égoïste quand on est dans l'amour de Dieu et du Christ. Et donc, on n'y va pas pour un phénomène de transfert, pour se déculpabiliser. On y va pour que Jésus puisse faire son œuvre à travers nos fautes. Pour que Jésus ne soit pas mort pour rien, il est mort pour qu'on l'accueille réellement. Et pour que cette transformation se fasse réellement. C'est à cause de ça.
Alors pour la prière dans la confession, c'est une pénitence, parce qu'elle prend vraiment sa valeur par rapport à aux actes qu'on a fait au moment où on vient se confesser. Elle diffère de la prière normale. Même si la prière est un acte de mort à soi-même, là elle prend une lumière nouvelle dans le problème de la pénitence du sacrement de la conciliation. Qu'elle est faite justement à la suite des actes qu'on a posés et qui sont.
La pénitence, ça veut dire que c'est un acte de peine. Donc, c'est un acte qui purifie. Donc, c'est quand même celui qui a péché et qui est pardonné, qui garde sa peine, et c'est dans cette peine qu'il va dire le psaume 50 comme pénitence. Et cette peine, mais cette peine est portée en Dieu, et c'est pour ça que c'est une pénitence. On porte la peine du Christ, on porte la peine des péchés du monde et sa propre peine en Dieu. Et c'est pour ça que c'est une pénitence. Et c'est normal que ce soit plutôt des prières, du coup, qu'on demande. Vous voyez, puisqu'il s'agit de porter sa peine en Dieu, et avec notre peine, la peine du Christ sur la croix dans le sein du Père, et avec la sienne, la peine de la Vierge, la peine de l'Église, la peine de tous ceux qui sont très sensibles, tous les innocents au mal, la peine de tous les hommes, de tous les innocents crucifiés. On porte cette peine en Dieu à travers cette pénitence. Là, il y a une dimension de corps mystique extrêmement importante. Vous voyez ? Est-ce qu'il me reste 5 minutes ?
Non.
Il nous restera à voir les étapes de la confession. En fonction justement de cette structure, la structure qui est ici, qui correspond à l'incarnation du Christ, sa nativité, l'enfance, le baptême de Jean-Baptiste, la tentation au désert, la vie apostolique, le mont des Oliviers et la passion, l'absolution de la résurrection.